Emma fit irruption dans la grande surface et se dirigea vers la chirurgienne à grandes enjambées. Elle était seule et portait toujours le sac fourre-tout à l'épaule. Tout en maintenant Kate dans son champ de vision, Emma n'eut aucun mal à se fondre dans la foule. Avec son large choix de produits bio, le Whole Foods visait une clientèle plutôt aisée et écolo. À quelques heures du réveillon, des chants de Noël passaient en boucle et l'endroit était plein à craquer. À l'entrée du magasin, une vaste zone organisée comme une cafétéria permettait de prendre un rafraîchissement ou de déjeuner directement sur place en se servant dans les buffets et les stands qui proposaient plats chauds, sushis et bagels. Arrivée à quelques mètres de la chirurgienne, Emma cala ses pas dans ceux de Kate. Elle s'inséra dans la file du bar à salade, prit une barquette, se servit un assortiment de crudités et de graines germées, choisit une bouteille de kombucha et paya sa nourriture à l'une des caisses dédiées. Elle suivit ensuite Kate dans la longue salle de restauration rapide où les clients pouvaient déguster leur lunch tout en regardant l'animation de la rue à travers une grande baie vitrée. La pièce était bondée. On se bousculait et on jouait des coudes pour trouver une place assise sur l'une des tables collectives agrémentées de bancs en bois. L'ambiance était celle d'une cantine haut de gamme. Les gens se levaient et allaient eux-mêmes faire réchauffer leurs plats dans un des micro-ondes mis à leur disposition avec une convivialité un peu surjouée. Ici, néanmoins, le temps était précieux. On mangeait vite, à un encas sur le pouce dans un brouhaha sympathique avant de retourner travailler à l'hôpital ou dans les bureaux du West End. L'endroit idéal pour passer inaperçu. En regardant Kate se faufiler entre les tables, Emma comprit qu'elle avait rendez-vous. La chirurgienne s'assit à l'extrémité d'une table, sur une chaise qu'un homme avait réservée en posant son manteau. Emma chercha à se rapprocher, mais la seule place disponible était située à environ 6 mètres. Deux longues tables les séparaient, et le bruit ambiant réduisait à néant tout espoir d'entendre leur conversation.
« La poisse !»
Elle s'installa et plissa les yeux pour mieux détailler le nouveau venu. Un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux courts, poivre et sel, vêtu d'un costume sombre cintré à rayures. Son regard, couleur bleu-gris, froid, translucide, s'accordait parfaitement avec son visage figé, comme taillé dans du marbre.
« Tu m'entends, tête de blatte ?»
En quelques phrases, Emma mit Romuald au courant de la situation.
« Bon sang, c'est à lui qu'elle va remettre le sac. Il faut absolument que j'entende ce qu'ils se disent. »«
Vous n'avez qu'à vous rapprocher, »
répondit Romuald à l'autre bout de la ligne. Elle s'énerva.
« T'as pas la lumière à tous les étages, toi. Je t'ai expliqué que je ne pouvais pas. Et puis Kate m'a déjà croisé dimanche et hier matin. Elle va finir par me repérer. »«
Ok, vous énervez pas, »
s'offusqua l'adolescent.
« Romuald, ce n'est pas le moment de jouer les ados boudeurs. Il faut que tu m'aides. Ils se disent beaucoup de choses, là. » Si tu as une idée, c'est maintenant.
L'adolescent laissa passer 3 secondes, puis s'écria.
Votre téléphone! Posez-le sur le sol et projetez-le dans leur direction. Je vais les enregistrer.
Elle secoua la tête.
Il te manque vraiment une vis, siffla-t-elle entre ses dents. Comment veux-tu que ça marche?
Anxieuse, elle se rongea un ongle. Mais en désespoir de cause, elle suivit le conseil du geek. Elle déposa son portable sur le parquet en bois blond, faisant mine de renouer ses lacets, et avec son pied, le propulsa à la manière d'un palet. Le cellulaire glissa sur les planches vitrifiées, passa sous les bancs et les jambes pendantes, puis s'immobilisa sous la grande table où Kate déjeunait avec l'inconnu. La chance du débutant. Tendue et crispée sur sa chaise, Emma termina en 2 gorgées sa bouteille de thé fermenté en adressant une prière muette pour que personne ne remarque le téléphone. Son supplice prit fin rapidement, puisque moins de 3 minutes plus tard, Kate et l'inconnu se levèrent dans un même mouvement. Elle se leva à son tour, récupéra discrètement son appareil sous les yeux interloqués des autres occupants de la table et sortit dans leur sillage. Emma quitta le supermarché en trombe.
« Tu as compris ce qu'il disait, Romuald ?»«
Non, pas vraiment, »
s'excusa l'adolescent.
« Leur conversation se perdait dans le brouhaha de la foule. Il faut que je nettoie l'enregistrement. »
« Mine-toi alors !»
ordonna-t-elle en lui raccrochant au nez. Tandis que la chirurgienne repartait vers l'hôpital, l'inconnu prit le chemin inverse. Emma préféra mettre ses pas dans ceux de l'homme qui avait récupéré le sac rouge contenant les 500 000 $. Elle les avait observés, lui et Kate, pendant toute leur rencontre, et était certaine qu'il n'y avait pas eu d'échange. L'homme avait pris l'argent sans rien donner en retour. Qui est ce type? Qu'avait-il promis à Kate contre tout ce fric? L'homme longea Cambridge Street sur plusieurs centaines de mètres. Emma ne le quitta pas d'une semelle tout en restant à distance raisonnable. La foule était dense. Boston vibrait au rythme de Noël. La grande avenue était décorée de centaines de lanternes. Pas un arbre ou un lampadaire sans guirlande, pas une façade de maison qui ne soit égayée par une couronne de houx ou une boule de gui. Les bras chargés, beaucoup de passants arboraient des mines réjouies et se laissaient gagner par l'excitation de la fête. Même le vent glacial, en charriant des odeurs de sapin, de cannelle et de marron grillé, participait à sa façon à cette atmosphère joyeuse. En arrivant à la station Bowdoin, Emma crut que l'homme allait prendre le métro, mais à la place, il traversa la rue et monta dans le bus numéro 18. Emma réussit à grimper elle aussi in extremis, utilisant son Link Pass, la carte de transport qu'elle avait achetée la veille en rentrant de son rendez-vous avec Joyce Wilkinson. Tandis que l'autobus démarrait, elle trouva une place isolée trois sièges derrière l'homme qu'elle pistait. Il resta impassible pendant tout le trajet, regardant fixement à travers la vitre le paysage urbain qui défilait devant ses yeux. L'autocar effectua un grand arc de cercle pour rejoindre Park Street. Il longea le Boston Common et le Public Garden par le nord, puis fila vers l'ouest sur Commonwealth Avenue. Il avait effectué plus de 1 kilomètre sur la large artère plantée d'ormes et de châtaigniers lorsque l'homme se leva et se dirigea vers la porte arrière du bus. À l'arrêt de Gloucester Street, Emma le vit descendre et profita du mouvement de foule pour quitter à son tour l'autobus sans être repérée. Elle lui emboîta le pas, marchant une centaine de mètres vers le sud pour rejoindre Boylston Street, la rue de Back Bay, où se trouvent les hôtels de luxe. L'homme entra dans le hall du Saint-Francis, dont la façade de verre et de briques combinait le luxe branché et le charme victorien des constructions bostoniennes. Emma connaissait cet hôtel prestigieux, son restaurant surtout, qui avait gagné l'année précédente une 3e étoile au Michelin. Elle suivit l'inconnu jusqu'à la batterie d'ascenseur et s'engouffra au dernier moment avec lui dans la cabine. Elle le laissa insérer sa carte pour débloquer la sécurité de la cabine vitrée et appuyer sur le bouton du 3e étage. « Le même que le mien », dit-elle pour se justifier. Il la regarda sans lui répondre, mais en la détaillant des pieds à la tête. « Cette fois, je suis grillé. » La capsule de verre s'ouvrit sur un couloir feutré. L'homme n'eut même pas la galanterie de lui céder le passage. Il ne s'attarda pas et prit à droite. Emma fit quelques pas dans la direction opposée et se retourna une demi-seconde avant que la porte de la chambre ne se referme. Elle en releva le numéro et prit l'ascenseur jusqu'au niveau du lobby. C'est au moment précis où les portes se fermèrent qu'elle eut l'idée d'un stratagème pour découvrir l'identité de l'homme mystère. La salle de restaurant du Saint-Francis était un véritable écrin, meublé dans un style résolument moderne. Tous les éléments du décor déclinaient une palette de tonalités crème et argentée, depuis les paravents en satin aux quatre coins de la pièce jusqu'aux broderies métalliques qui pendaient aux tringles à rideaux. Même le lustre monumental, paré de cristaux taillés, avait des reflets ivoire. « Bienvenue, madame. Avez-vous une réservation ?» s'enquit le maître d'hôtel. « Je ne suis pas venu pour déjeuner. J'ai une communication urgente à adresser à votre sommelier, Michael Bouchard. Veuillez patienter, je vous prie. » Emma attendit moins d'une minute avant que le jeune sommelier vienne la rejoindre. « Lovenstein, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda son collègue québécois. Ils n'étaient pas amis, mais ils se rencontraient souvent au cours de séminaires, de dégustations ou de concours. « Salut Michael, j'ai besoin de ton aide. » « Je suis en plein service, là. Tu sais ce que c'est. On va prendre un verre après » proposa-t-il. Elle se rapprocha de lui et insista. « Je suis désolé de te bousculer, mais c'est vraiment urgent. »« Ok, fais vite. Peux-tu te renseigner pour connaître l'identité du client de la chambre 321 ?»« Tu plaisantes, je suppose. Qu'est-ce que tu fais de la confidentialité envers nos clients ? C'est comme ça que vous traitez les vôtres à l'impérateur. » »« Je t'en prie, Michael. C'est très important. Appelle la réception ou le concierge. » « Mais je risque mon poste !»« N'exagère pas, je te demande juste son nom. »« Et qu'est-ce que je gagne, moi, dans l'affaire ?»« Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ?»« Une petite pipe, là tout de suite, derrière la porte de la cuisine ?»« Elle avait haussé volontairement la voix et quelques clients s'étaient retournés. Le Canadien devint blême et entraîna Emma dans le hall.
« Tu fais chier, Lovenstein. T'es une vraie malade.
Va à la réception et trouve-moi le nom du type qui occupe la chambre 321, s'il te plaît. »
Il s'exécuta de mauvaise grâce. La conversation fut brève. Moins de 2 minutes plus tard, il revint vers Emma et lâcha. Le type est descendu sous le nom d'Oleg Tarasov. Ça te va ? Elle sortit un stylo de la poche de son sac à dos.
« Merci pour ta coopération, cher collègue, » dit-elle en inscrivant le nom sur son avant-bras.
« Va te faire foutre, Lovenstein, » répondit Michael en tournant les talons.
Les yeux de Romuald brillaient d'une flamme intense derrière ses écrans. Il venait d'encoder l'enregistrement audio sur son ordinateur et s'apprêtait à le nettoyer en éliminant les parasites. Il lança un logiciel approprié qui ouvrit une fenêtre reproduisant une configuration de table de montage. Il écouta l'enregistrement pour isoler un passage où le bruit de fond était continu et persistant. Il se servit de cet échantillon pour paramétrer le profil du bruit en identifiant précisément sa fréquence et ses décibels. Dans un deuxième temps, il sélectionna l'intégralité pour y appliquer la suppression du bruit. L'adolescent réécouta le début du fichier sonore, mais ne fut pas convaincu par le résultat. C'est plus facile dans les séries télé. Sans se décourager, il trépatouilla les fréquences vocales pendant un bon quart d'heure, jouant avec leur amplitude pour parvenir à un résultat plus satisfaisant. Puis il lança de nouveau l'enregistrement. Et ce qu'il entendit lui fit froid dans le dos. Emma s'installa au bar du Saint-Francis sur une banquette près de l'entrée qui lui permettait d'avoir une vue sur le hall au cas où Tarasov déciderait de ressortir. Elle commanda une capirosca, puis sortit son ordinateur et se connecta au Wi-Fi de l'hôtel. Son esprit était en alerte. À présent, elle était totalement plongée dans son enquête. Elle n'avait jamais ressenti cette sensation. L'adrénaline et l'excitation la poussaient dans ses retranchements, lui donnaient toutes les audaces. Elle tapa « Oleg Tarasov » dans le moteur de recherche. Il y avait beaucoup d'occurrences. Profil Facebook, LinkedIn, V-Contact. Elle bascula sur Google Images et, divine surprise, tomba presque instantanément sur l'une des photos de l'Oleg Tarasov qu'elle cherchait. Sur le cliché, il était plus jeune d'une bonne dizaine d'années, mais avait déjà ce même visage impassible, comme coulé dans le marbre. L'image renvoyait à une fiche de la Bible du cinéma en ligne, le site de l'Internet Movie Database. À en croire IMDb, Oleg Tarasov était crédité comme cascadeur et coordinateur de cascades sur un nombre impressionnant de films d'action dans les années 1990. La plupart n'étaient pas des chefs-d'œuvre, loin de là, téléfilms, productions de série B, thrillers sans budget qui, même à l'époque, avaient dû sortir directement en VHS ou DVD. Il travaillait presque toujours avec son frère, Vassili, et la spécialité des frangins semblait être les cascades en moto. Leur carrière artistique avait pris fin une dizaine d'années plus tôt, mais en quelques clics, Emma parvint à retrouver leurs traces à Los Angeles, où ils s'étaient apparemment recyclés dans la sécurité privée. D'après le site web de leur agence, les Tarasov travaillaient désormais dans la surveillance et la protection de personnalités. Elle allait sortir son téléphone pour prévenir Romuald de sa découverte, mais le geek la devança. Elle n'attendit même pas la fin de la première sonnerie pour décrocher.
« Tu as trouvé quelque chose, tête de blatte ?»«
Oui, »
répondit-il d'une voix blanche.
« Tu as vu un fantôme ou quoi ?»«
J'ai nettoyé la bande de l'enregistrement. »
commença-t-il.
« Bon, et alors ?»«
Je vous laisse écouter le dialogue entre Kate et Oleg. C'est effrayant. »
Emma fronça les sourcils. Elle plaqua le téléphone contre son oreille droite et se boucha la gauche pour ne rien perdre de la conversation.
L'argent est dans le sac. J'ai respecté mes engagements à la lettre. Un autre versement de 500 000 dollars, 500 liasses compactes de billets de 100 dollars. Et le reste? Vous l'aurez une fois que je serai certaine que le travail a été réalisé en suivant exactement mes instructions. Donc c'est pour ce soir? Oui. Mais vous devez absolument attendre mon appel pour entrer en action. Et ce ne sera pas avant 21h. Si je ne vous contacte pas, vous laissez tomber, c'est compris? Et le lieu? Je vous ai fait un mémo sur cette clé USB. L'endroit s'appelle la Corniche. C'est une rampe en béton, étroite, en sens unique, derrière la gare de Jackson Square à Jamaica Plain. Elle permet d'éviter le nœud de circulation et les feux mais les gens hésitent à la prendre à cause des marginaux, des camés et d'une interdiction municipale. Vous êtes certaine qu'il n'y aura personne ? On n'est jamais sûr de rien. Mais avec ce froid, les dealers et les drogués resteront planqués chez eux. Je ne vous répète pas le modus operandi ? Non, j'ai compris. Vous avez noté l'adresse ? Oui, je l'ai. Que l'on soit bien d'accord, si vous ne suivez pas exactement le processus, notre accord tombera à l'eau. J'ai saisi, je vous dis. Une dernière chose. Quelle est l'identité de la personne que je dois tuer ? Il s'agit de cet homme sur la photo. Il s'appelle Matthew Shapiro. C'est mon mari.